hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Alan Pauls. Alan Pauls, vous êtes écrivain, auteur de nombreux livres. On vous a connu notamment par le passé, votre livre intitulé Le passé, puis votre histoire des cheveux, histoire des larmes, histoire de l'argent, votre livre sur Borges que vous avez intitulé Le facteur Borges, ce livre des opilants qui s'intitule Wasabi. On a l'impression de vous connaître après vous avoir lu, et notamment parce que cette trilogie que vous avez faite ne parle pas particulièrement ni des cheveux, ni des larmes, ni de l'argent, quoique, mais prend comme sujet d'autofiction votre propre personne. Alors je vais commencer par une photo que j'ai découvert dans un de vos livres pour que vous puissiez la commenter. Cette photo, c'est une photo de vous enfant que vous avez reproduit dans ce livre qui s'intitule « La vie pieds nus » et qui parle de la plage. Est-ce que vous pouvez commenter cette photo de vous ?
Oui, en effet, c'est moi.
Êtes-vous sûr que c'est vous ?
Oui.
Parce qu'avec vous, on n'est jamais sûr de rien.
Oui. Non, je suis sûr, mais c'est moi, mais c'est ce moi qui ne m'appartient plus. C'est-à-dire, c'est moi à, je ne sais pas, peut-être 10 ans, en train d'essayer de jouer au golf sur la plage, ce qui était assez risqué. J'ai voulu semer ce livre de petites photos familiales de moi, de mon frère, lorsqu'on partageait cette plage-là en Argentine dans les années 70. C'est un peu la date dans laquelle se déroule la trilogie que vous avez citée, les larmes, les cheveux et l'argent. Cette photo-là, par exemple, c'est le point de départ d'une fiction. Je ne peux pas prendre cette photo-là comme un document, vraiment. Ou si je la prends comme un document, ce serait un document d'une fiction à venir. Parce que, effectivement, je n'ai rien à voir avec ce type, avec ce garçon. Ou peut-être si, mais en tout cas, ce qui m'intéresserait davantage, ce serait les différences et pas les affinités. Je ne m'identifie pas à ce garçon, bien que je reconnais ce geste de jeune joueur de golf. Je ne sais pas pourquoi le golf. Ah, parce qu'il y avait un combat de sport. Mes parents étaient divorcés. Donc mon père, il était un très bon joueur de tennis et le deuxième mari de ma mère jouait au golf. Et alors moi, je provoquais mon père en jouant au golf avec lui et je provoquais mon beau-père en jouant au tennis avec lui. Donc je crois que c'est ça, c'est l'utopie du golf sur la plage.
Enfin, en même temps, c'est l'incarnation de la démarche propre de votre écriture, c'est-à-dire qu'il y a toujours du tremblé dans l'écriture, tout en ayant beaucoup, beaucoup de précision. Votre style est très particulier parce que on a l'impression que vous recherchez la remémoration et qu'en même temps, cette remémoration de votre propre enfance n'est que le prétexte pour essayer de comprendre autre chose que vous-même.
Oui, c'est ça. C'est ce qui arrive lorsqu'on essaye de remémorer. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est pas exactement d'y arriver, c'est pas exactement d'y réussir, c'est dans tout travail de rémémoration, un cheminement qui nous conduit vers des endroits plutôt inconnus. Je suis très intéressé à la mémoire, bien sûr, mais pas parce que pas parce que j'ai une croyance quelconque au passé. Je ne crois pas au passé. Je ne crois pas que le passé cache des vérités intactes ou des secrets originels. Mais ce qui m'intéresse à la mémoire ou à la rémémoration, c'est plutôt l'échec ou le mensonge ou la surélaboration de ce qui a été rémémoré. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les usages stratégiques, donc toujours au présent, de la mémoire. C'est ça. On se souvient des choses parce qu'on a besoin d'elles au présent, maintenant, pour quelque chose, pour achever quelque chose, pour obtenir quelque chose. On est très stratégique par rapport au souvenir. Donc, c'est plutôt ça qui m'intéresse, le caractère actuel, présent d'une tâche qui est d'ailleurs interminable, invérifiable, etc., etc., non?
Alors parlons de vos cheveux. Vous avez de beaux cheveux. Ils sont gris maintenant, mais ils sont beaux. Vous en
Bon,
avez
il y
beaucoup.
en a beaucoup, oui, ça c'est
Si je dis ça, c'est pas par indiscrétion, c'est parce que vous parlez de votre obsession, d'aller chez le coiffeur quand vous étiez petit.
Oui, c'est pas une obsession. Je veux dire,
Une castration?
non, non, j'ai toujours été très attiré par la scène d'un garçon, d'un homme, je veux dire au sens de genre. C'est pas l'expérience des femmes chez le coiffeur qui m'intéresse. C'est une expérience qui est intéressante quand même, mais qui est assez conventionnelle. Mais tandis que la scène d'un homme se faisant couper les cheveux chez le coiffeur, pour moi, ça a quelque chose de très bizarre. Parce qu'en effet, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de genre là. Un homme chez le coiffeur est plutôt quelqu'un qui est complètement perdu, qui ne sait pas comment formuler ce qu'il désire par rapport à ses cheveux, parce que il ne sait même pas quel est le rapport qu'il entretient à ses cheveux. Il ne sait pas comment considérer ses cheveux. Donc, moi, ça m'amuse toujours de voir la maladresse avec laquelle les clients hommes des salons de coiffure essayent de dire ce qu'ils veulent. Lorsque vient le coiffeur et formule sa question terrible, diabolique, comment vous les voulez? Ça, je crois, c'est presque plus terrifiant que le fameux que voy que Lacan formulait aux femmes, non? C'est une question qui est très difficile à répondre. Et ce que j'ai fait dans mon roman, dans l'histoire des cheveux, c'est plutôt pousser ça à un certain extrême qui est à la fois tragique, ridicule et aussi mythique. Mais en plus, j'ai voulu surtout prendre les cheveux comme un objet. C'est une partie du corps, c'est une partie assez importante du corps. Il y a même des gens qui considèrent les cheveux comme des organes sexuels externes. Mais j'ai voulu surtout considérer les cheveux comme un objet culturel, c'est-à-dire comme un objet très écrit, très représenté culturellement le long de l'histoire, et aussi comme un enjeu politique. Donc les cheveux dans les années 70 en Argentine, mais aussi un peu partout par le monde, c'était un objet vraiment,
De
oui,
distinction.
de distinction et aussi un petit champ de bataille. Je cite dans le roman un documentaire très court d'Agnès Varda tourné en Californie, je crois que justement en 1970, où elle allait, parce que Eldridge Cleaver, un des leaders des Black Panthers, était emprisonné. Et il y avait quelque chose de très puissant qui était en train de se passer à la côte ouest américaine. Et dans ce documentaire, qui fait, je crois, je ne sais pas, 13 minutes, Varda consacre au moins 4 ou 5, à peu près la moitié, à une discussion avec les Black Panthers où les militants revendique la coupe afro au même titre que la révolution ou que l'extermination des bourreaux blancs, etc., etc. Donc les cheveux étaient à ce moment-là quelque chose de très important du point de vue de la lutte politique, qui était complètement anti-frivole. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'était de prendre quelque chose qui est de l'ordre de la frivolité, les cheveux, l'image corporelle qu'on en a et tout ça, et lui injecter une certaine valeur d'importance, si vous voulez, non, de transcendance. C'est-à-dire qu'on peut lire dans un élément aussi frivole que les cheveux tout un moment historique, non?
Et quand vous avez commencé votre trilogie, vous aviez déjà dans la tête, en place, le dispositif des trois, c'est-à-dire les cheveux, les larmes, l'argent. Et apparemment, ça commence toujours par une histoire d'introspection. Ensuite, ça se déplace dans des territoires géographiques de plus en plus grands. Et en catimini arrive effectivement l'histoire avec un grand H et la politique, et notamment dans l'histoire des larmes. Donc, quel était votre point de départ, et est-ce que vous aviez déjà l'idée de mettre en place, à partir d'une histoire très intime, une histoire beaucoup plus politique?
Oui, le projet comprenait trois romans écrits en troisième personne du singulier et au présent, qui allaient tourner autour des années 70 en Argentine, qui allaient avoir à peu près le même héros, ou peut-être trois héros qui allaient partager un certain air de famille. Et j'avais ces trois éléments, larmes, cheveux et argent, qui étaient un peu comme des, que je considérais et que j'allais traiter un peu comme des fossiles historiques. C'est-à-dire que je concevais les trois romans comme étant écrits par une sorte d'archéologue ou de paléontologue un peu fou, qui allait exhumer ces trois éléments, larmes, cheveux et argent, et pour reconstruire à partir de toute une civilisation, la société argentine des années 70. Donc j'avais cette idée, et j'avais surtout l'idée de faire jouer ces trois éléments comme un peu comme des embrayeurs, c'est-à-dire des points de connexion, de points de capitons qui allaient articuler une histoire très privée, très personnelle, très intime, à une histoire plus grande. Je veux dire, l'histoire des luttes politiques en Argentine dans les années 70. Donc j'avais l'articulation intime publique ou personnelle politique ou privée historique était bien sûr à l'origine du projet.
Et en même temps, c'est un portrait d'une Argentine, d'une génération qui vient après les choses importantes. Il y a un registre mélancolique d'une impossibilité d'action, parce que c'est dans l'anté que les choses importantes se sont produites.
Oui, ça, je crois que c'est une expérience plutôt personnelle. Je veux dire, c'est un peu le problème que mettent en scène les trois romans, c'est comment être contemporain d'une époque aussi intense, aussi révolue, aussi passionnée. Comment être contemporain d'une époque qui exigeait d'y participer par le moyen de l'action. C'était un peu la consigne de l'époque. Être contemporain était agir. Et agir, bien sûr, c'était prendre les armes. Et le héros des trois romans est un peu dans une situation un peu paradoxale. Il participe beaucoup de cette époque, mais en tant que lecteur. C'est un peu un fan, un lecteur acharné de toute la presse révolutionnaire de l'époque.
Il est à distance du réel.
Il est à distance, mais quand même, il sait très bien ce qui se passe. Donc, il a un accès à ce qui se passe assez privilégié. Mais en même temps, il refuse ce qu'à l'époque, on ne pouvait pas refuser si on ne voulait pas être considéré un réactionnaire, un bourgeois, un fasciste, etc. Donc, il a un pied sur son époque, et un autre pied, quelque part d'autre.
Pourquoi refuse-t-il ? Parce qu'il est trop happé par ce qu'il lit, et ce qu'il lit, car vous êtes un immense lecteur et vous nous avez fait d'ailleurs découvrir Borges autrement, on a l'impression que, en tout cas le héros qui vous ressemble beaucoup, Alan Pauls, on a l'impression que ce qu'il lit et ce qu'il découvre dans le processus qu'est la lecture est peut-être plus intéressant que ce qu'il y a dans le réel.
Oui, peut-être lire l'époque, c'est la façon la plus, je ne sais pas si commode ou confortable d'y participer, parce que à la fois il est vraiment à la page, il est vraiment branché, mais en même temps il conserve, il garde une certaine distance. Les trois romans sont des romans où la distance est très importante, la distance comme perspective, la distance comme arme, comme outil, si vous voulez. Mais le problème, c'est que exercer la distance dans les années 70, c'était la même chose que mériter l'insulte de lâche. C'était pas une valeur, la distance. Pour moi, la distance est quelque chose de très important. Et j'ai même, après, j'ai lu Brecht, par exemple, dont toute la poétique et même la politique sont axées sur le concept de distance. Donc la distance ne devrait être pas un problème pour l'action, mais plutôt une de ses conditions. Et je crois que le héros des romans ne réussit pas à trouver une solution satisfaisante. Mais peut-être il n'y en a pas de solution satisfaisante. Et peut-être le problème de la contemporanéité, comment fabriquer une bonne contemporanéité par rapport à sa propre époque, est un problème qui n'a pas de solution satisfaisante. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Mais moi, en tant qu'écrivain, je ne pourrais pas écrire sans prendre une certaine distance. Donc je revendique toujours la distance, même si son exercice nous fait passer à côté des choses.
Voici ce que vous écrivez dans Histoire des larmes. C'est dans le premier tiers de votre roman, Alan Pauls. Sa mère lui a avoué qu'à 25 ans, condamnée par sa canaille de mari qui a mis les voiles à vivre entre les quatre murs de cet appartement destiné aux classes moyennes, et de nouveau à la merci de sa mère et de son père, chez qui la tristesse de voir leur fille unique élever seule son enfant n'est rien, absolument rien, comparé à l'euphorie triomphale que suscite la possibilité de l'avoir encore auprès d'eux, sous leur influence, et surtout la preuve qu'ils avaient raison, ô combien, quand 4 ans auparavant, à la veille d'un mariage organisé à la hâte, ils avaient prophétisé qu'aussi intense soit-elle, ces chaleurs, entre guillemets, ne dureraient pas, et qu'avant 2 ou 3 ans, au maximum 4, elles leur reviendraient, une main devant et une main derrière, sans avoir droit à rien. Et on a vraiment l'impression, presque physique, en lisant vos bouquins, Alan Pauls, que cette distance que vous avez revendiquée dès le premier livre en tant qu'écrivain et qui compose une partie essentielle de votre style, elle est peut-être à comprendre dans cette espèce d'immobilité, d'encasernement, de solitude de cet enfant qui est obligé de vivre cloisonné dans un univers familial un peu vénéneux.
Oui, peut-être. Je crois que je ne vois rien si je ne prends pas une certaine distance. Tout devient un peu flou, tout devient un peu confus. Et j'aime voir, j'aime reconnaître, même si le paysage que je veux voir est un paysage compliqué ou la situation que je veux percevoir est difficile à comprendre, il me faut un certain recul. Et en général, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le recul implique la perte ou le renoncement à l'émotion. Je crois plutôt à l'envers que la distance est une condition de l'émotion, est une condition de la sensibilité, est une condition même d'une certaine sentimentalité, si vous voulez. Quand je dis distance, je veux dire aussi l'art de l'indirect, de l'oblique, de tout ce qui n'est pas frontal, de tout ce qui n'est pas immédiat. Et en plus, c'est vrai que vous avez dit quelque chose qui m'a touché dans la question précédente, c'est que ce ne sont jamais les faits qui m'intéressent, C'est plutôt ce qui reste des faits une fois qu'ils ont eu lieu. Donc, je ne suis pas un écrivain qui raconte des histoires au sens où ce qui est important dans une histoire, c'est ce qui arrive. Pour moi, ce qui arrive dans mes romans, c'est toujours quelque chose qui arrive trop tard. Parce que justement, je crois que après, dans le moment après des fêtes, des événements, il y a quelque chose qui se déclenche, qui m'intéresse beaucoup, c'est comment nous réagissons à ce qui s'est passé une fois que ce qui s'est passé est passé. Donc, quand on n'a plus les moyens d'y intervenir. C'est là que pour moi commencent les choses, commencent à avoir lieu les vrais événements. Le roman Le Passé, c'est un roman très gros, mais
500 pages.
oui, et lorsque le roman commence, l'histoire d'amour entre les héros vient de finir. Donc ce qui m'intéresse là, c'est pas exactement l'histoire de cette passion, de cette expérience amoureuse. C'est plutôt ce qui arrive à deux amoureux ou deux anciens amoureux lorsque l'amour finit, si l'on peut dire. La thèse du roman, la thèse entre guillemets, c'est que effectivement ça ne se termine pas. Il n'y a pas de fin dans une vraie expérience amoureuse. Plutôt, il y a un changement de matière, de qualité, de nature, et l'amour devient un peu spectral. Là aussi, c'est tout l'effort, c'est tout le travail d'élaboration, de souvenir, de la façon dont les deux amants commencent à archiver, si vous voulez, ce qu'ils ont vécu ensemble. C'est ça qui m'intéresse. Parce que ça produit encore des faits. C'est pas quelque chose qui se clôture, c'est plutôt quelque chose qui s'ouvre à des nouveaux événements imprévisibles. C'est ça. C'est un peu le deuil pour moi. C'est un moment extraordinairement productif.
L'expression de plaisir et surtout de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards. Parce que d'abord, il est évident que le plaisir de la lecture est très différent selon les sujets, n'est-ce pas? Un tel s'ennuie à un texte qu'un autre aime beaucoup et réciproquement, et il est donc extrêmement difficile de proposer une sorte de loi générale du plaisir de la lecture. C'est là une première incertitude. La seconde incertitude, c'est que la notion même de plaisir, je dirais sur un plan psychologique, est finalement assez mal connue. Je rappellerai simplement, sans vouloir faire de la philosophie de l'histoire de la philosophie, ce qui n'aurait pas de place ici, que, disons, toute la philosophie occidentale, dans son ensemble, a plus ou moins censuré le concept de plaisir, que les philosophes du plaisir sont extrêmement rares dans notre tradition. On peut citer surtout des philosophes, finalement, ou très lointains ou marginaux, comme Épicure, ou disons, comme Sade, ou peut-être même comme Diderot, et que par conséquent, quand nous parlons de plaisir, nous devons lutter avec une certaine résistance culturelle. Le plaisir, c'est une notion générale qui est futilisée par l'opinion courante. Et une troisième incertitude vient de ceci, que, au fond, la science, disons, qui s'est le plus approchée du concept du plaisir, c'est évidemment actuellement la psychanalyse. Mais la psychanalyse, alors, introduit des nuances, des différences entre différents types de plaisir, et je me suis servi, si vous voulez, d'une opposition qui, je crois, est assez utile, même si elle n'est pas absolument vraie. Elle a une valeur, disons, de guide, de conduction, de conducteur théorique. C'est l'opposition entre le plaisir et la jouissance.
Alors, Alain Pauls, vous êtes professeur de théorie littéraire. Est-ce que Roland Barthes est lu en Argentine, et est-ce qu'il vous a influencé?
Oui, il est très lu. Je crois que c'est peut-être celui qui a le mieux resté de tout ce groupe de penseurs, d'écrivains, de théoriciens, de critiques littéraires. Et je crois que c'est celui qui a vraiment survécu et qui est toujours fertile pour la littérature, non pas seulement pour les critiques ou pour les gens qui réfléchissent sur la littérature, mais aussi pour les écrivains tout court, parce qu'il a toujours été vraiment un écrivain, même lorsqu'il écrivait, je ne sais pas, le système de la mode ou l'analyse structurelle du récit, ses textes les plus carrés ou les plus pseudo-scientifiques, il était toujours un petit peu déviant. Donc, ce sont toujours ces petits détours très subtils, ces effets d'écriture qui je crois, que le conserve le mieux. Et pour moi, c'est quelqu'un de, je dirais, de radicalement influent pour moi. J'ai commencé à lire Barthes, je ne sais pas, lorsque j'avais 14 ou 15 ans, au lycée franco-argentin, je dois dire. Et je ne l'ai jamais cessé de le lire. Il y a des livres de Barthes que j'ai lus, je ne sais pas, 7, 8, 9 fois. Et bien sûr, j'ai écrit comme lui. J'ai même falsifié sa calligraphie. Ah oui, c'était une vraie identification. Mais j'ai toujours beaucoup aimé chez Barthes ce côté un peu, si vous voulez, un peu hystérique, qui le protégeait de ce que lui-même appelait l'effet ventouse, non, c'est-à-dire la façon dont certains écrivains, à une certaine période, les années 70, 80, collaient, adhéraient d'une façon un peu ingénue ou définitive à certains modèles de pensée ou à certaines théories, etc. Je crois que l'hystérie chez Barthes, c'est peut-être le seul écrivain qui a réussi à faire de l'hystérie quelque chose de bon, une valeur, une vraie valeur d'écriture, de pensée, de style, de démarche. Justement, j'étais en train de lire dans ma chambre tout à l'heure le petit livre d'Antoine Compagnon sur Barthes que je viens d'acheter. Je n'ai pas participé beaucoup à toutes les célébrations qu'il y a eu pour le centenaire de Barthes, mais je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment sur l'invention. C'est quelqu'un qui, pour moi, est très important de ce côté-là.
Quel est ce narrateur ? Vous avez dit que dans vos fictions, vous employez le « il ». Ce narrateur, on ne peut pas s'empêcher de penser, évidemment, à l'ombre de Proust quand on vous lit, parce que vous l'observez, vous le traquez, vous le déployez, il vous échappe. Dans l'écriture, vous nous dites à nous lecteurs qu'il vous échappe. Est-ce que l'écriture est chez vous un acte de réappropriation, non pas d'un passé pour qu'il devienne présent seulement, mais une manière d'essayer de fixer des fantômes ?
Oui, je ne sais pas si de fixer, parce que je ne crois pas vraiment que les fantômes puissent être fixés. Je dirais plutôt de déployer, de déplier. C'est un peu cette figure-là qui me convainc le plus. C'est un peu mettre en scène, si vous voulez, ou suivre une certaine piste qui peut être complètement mal conçue, qui peut être le fruit d'une mauvaise interprétation ou d'un faux souvenir ou d'un souvenir écran. Mais c'est plutôt, oui, c'est plutôt un mouvement de m'égarer. J'aime bien m'égarer. Oui.
Avec des phrases quelquefois qui peuvent être très longues d'ailleurs.
Oui. C'est plutôt cette expérience-là qui m'intéresse. M'égarer même dans des univers que je crois connaître assez bien, de découvrir où est-ce que dans ces univers il y a la porte qui communique vers des endroits que je ne connais pas, que je ne savais pas qui existaient, et qui peut-être m'oblige après à reformuler tout ce que je croyais avant. En général, je crois que écrire pour moi, c'est toujours aller du connu vers l'inconnu, pas à l'envers. Je ne crois pas que je connaisse ou que je me connaisse moi-même mieux après avoir écrit ces bouquins qui travaillent sur des matériaux assez personnels, mais je ne dirais pas que je me connais mieux. Je dirais seulement que je suis quelques pistes sans savoir très bien où est-ce qu'elles vont m'amener. Donc, et j'aime beaucoup ce travail, j'aime beaucoup cette cet égarement et le suivre. Et je suis même assez scrupuleux et assez maniaque, maniaque pour le reconstruire. Même si j'ai le goût du détail, même si j'ai le goût de la précision, je ne dirai jamais que le détail ou que la précision m'aide à connaître.
On ne vous lit pas pour connaître,
non.
On vous lit pour s'égarer soi-même et peut-être
oui.
Mieux se retrouver, parce que vous nous lancez sur des tas de pistes fictionnelles différentes. On va écouter la voix de Jorge Luis Borges.
Je pense que je peux rédiger des textes tolérables, disons, ou pardonnables en espagnol, mais non pas dans une autre langue. J'ai commis l'imprudence de publier 2 ou 3 pièces en anglais. Mais après ça, je me repentis, non ? Je crois que pour écrire dans une langue, il faut la connaître profondément, non ? Évidemment, l'espagnol est la langue que je connais le plus. C'est ma langue maternelle.
En général, estimez-vous que vous êtes bien traduit en français ?
Oui.
Et avez-vous eu la bonne fortune d'être bien traduit dans toutes les langues dans lesquelles vous avez été traduit ?
Enfin, ce n'est pas toujours. J'ai eu de petites difficultés, de petits embarras en lisant les traductions anglaises et allemandes. En anglais, il y a évidemment un piège. Comme vous savez, l'anglais a un double registre, c'est-à-dire il y a des mots germaniques et des mots latins. Alors, le traducteur d'un texte espagnol tend, par paresse, par respect, à traduire dans des mots latins. Et cela peut rendre la traduction un peu pédantesque. Eh bien, j'invente un exemple. Imaginons que j'écris en espagnol « una habitación oscura ». Eh bien, si le traducteur anglais traduit « an obscure habitation », alors il écrit dans une sorte de jargon, car cela est tout à fait artificiel en anglais. Je crois que dans ce cas-là, il faudrait traduire tout simplement avec des mots saxons, a dark room, une chambre obscure. Cela est tout simple et tout naturel en anglais. Mais comme le traducteur voit le mot oscura, alors il tend à traduire an obscure habitation, cela sonne faux. Cela donne un air pédantesque au texte qui n'existe pas dans le texte.
Votre livre, Le facteur Borges, réussit à nous emmener sur des pistes que moi, personnellement, je n'avais jamais découvertes dans l'œuvre de Borges. Ça s'intitule Le facteur Borges. Facteur, c'est pas celui qui distribue les lettres, mais justement, c'est un facteur déterminant. Comment avez-vous réussi et comment avez-vous le courage de vous définir comme écrivain après avoir lu Borges ?
J'ai pas eu ce problème, heureusement.
Il vous a pas écrasé ?
Non, heureusement, Borges ne m'a pas écrasé et n'a pas écrasé ma génération. On n'a pas eu ce problème, on n'a pas vraiment vu Borges comme un père despotique ou implacable ou inaccessible. On l'a vu plutôt comme
un grand-père sympathique dans votre bouquin.
Comme un oncle.
Ouais.
Je ne sais pas si sympathique, mais un oncle assez comme sont en général tous les oncles, un peu pervers. Non, c'est-à-dire ce sont les corrupteurs, les vrais corrupteurs. Des familles et surtout des neveux. On l'a vu comme un oncle qui ne pouvait pas nous apprendre à écrire parce que Borges, chaque fois qu'on apprend à écrire avec Borges, on termine en écrivant comme Borges, donc c'est ridicule et c'est très flagrant, c'est indissimulable. Mais ce qu'il nous a appris tous, c'est à lire. C'est un grand maître de lecture, Borges. Et je crois que ça, c'est la meilleure des choses qu'un écrivain peut...
Il a même dirigé la bibliothèque.
Peut apprendre. Oui, il a dirigé la bibliothèque. Mais je veux dire, il nous a appris tous, nous, qui sommes nés, je ne sais pas, à fin des années 50, début des années 60, à faire avec la littérature qu'on lisait ce que nous voulions faire. Donc
un maître de liberté.
Total. C'est un maître. C'est un. Il nous a légué un certain enthousiasme pour la lecture. Je crois qu'il a été très. Il a pesé beaucoup sur la génération précédente qui a dû se battre avec lui contre lui pour pouvoir s'affirmer. Mais nous, je crois qu'on n'a pas eu ce malheur. On a pu jouir de Borges sans aucun problème, même sans aucun scrupule idéologique, même en sachant que Borges était souvent très très maladroit lorsque il avait des propos politiques ou sur la situation de l'Argentine. Effectivement, c'était pas un problème pour nous. C'était pas ce Borges-là qui nous intéressait. C'était pas ce Borges-là qui était productif pour nous. Et en plus, je crois parce que pour nous, en tant que génération, il y a eu d'autres écrivains après Borges qui avaient un peu montré qu'il y avait une littérature possible hors Borges. Non? Tandis que pour les
Vous
générations...
Pensez à qui?
Moi, personnellement, je pense à un écrivain argentin que j'aime beaucoup, c'est Manuel Puig. C'est un écrivain extraordinaire qui est un peu oublié maintenant, mais qui a été très, très important dans les années 70 et 80. Un écrivain qui, en un sens, est complètement l'inverse de Borges. C'est un écrivain plutôt axé sur les genres mineurs, plutôt axé sur le mélange entre la haute littérature et les arts populaires et la culture de masse. Un culteur de la télévision, des tangos, des feuilletons, c'est-à-dire tout ce que Borges, a priori, semblait détester. Mais ce sont deux écrivains qui ont des affinités assez bizarres. C'était deux défenseurs du montage, deux fanatiques du cinéma, deux maîtres de l'imposture et de l'apocryphe. Donc, mais pour nous, ou pour moi au moins, Puig m'a démontré qu'effectivement, on pouvait continuer à écrire après Borges sans avoir Borges comme une référence incontournable.
On va écouter la voix de Jean-Luc Godard.
J'avais deux problèmes, parler de moi et que si je suis allé voir des... Et je crois que j'ai besoin du cinéma pour ça, pour montrer des choses de moi et qu'au moins des gens qui m'aiment un peu, je veux dire, communiqueront avec moi sur des choses qu'ils pensent essentielles d'avoir chez moi, donc de montrer quand même une démarche de moi et d'oser transgresser, mais d'une certaine manière qui ne soit pas de la transgression imbécile. Effectivement, là, c'était difficile. Ma seule règle, c'était, il faut parler de moi qui était client de pute, et je dois dire une certaine vérité. Et une certaine vérité, c'est que ça se passe plutôt bien et gentiment si vous n'êtes pas un malade ou un facho. Mais une autre vérité aussi, c'est qu'au cinéma, on ne sait pas le faire. On ne sait pas bien le faire. Et donc, il faut le faire avec précaution. Et donc, une autre règle que je m'étais fixée, puisqu'au début du film, c'était Miu Miu qui devait jouer une partie de... qui devait jouer le rôle tenu par Nathalie Bay, bon, et que c'était Isabelle qui aurait fait la prostituée de toute façon, c'est qu'il fallait, de toute façon, simplement, moi j'ai toujours fait, j'ai peu d'imagination, je fais ce qui ne se fait pas, et de montrer simplement un rapport de commerce, de quelqu'un qui vend ses charmes, ça n'empêche pas d'être charmante, ça n'empêche pas la vente, mais qu'il faut montrer, je ne sais pas, l'extraordinaire dureté et en même temps un certain plaisir de ça, qu'il faut le montrer vraiment. Parce que par exemple, à ce moment-là, je me dis simplement, ben, il suffit de faire ce que les films français ne montrent pas d'habitude. Et par exemple, la dérobe, même si le film n'a pas de succès et que la dérobade en a eu beaucoup, il faut montrer ce que les scènes que la dérobade n'a pas montrées.
Alors c'est aussi une de vos références, hein, Godard.
Godard, c'est tout, je veux dire, c'est comme Dieu, Godard, c'est lui qui faisait la blague lorsqu'il avait fait le film avec Depardieu. Je crois qu'à l'affiche il y avait Godard et Depardieu, mais lui c'est vraiment le Dieu. Je veux dire, Godard c'est pas seulement un cinéaste, c'est un cinéaste, c'est un peintre, c'est un écrivain, c'est un philosophe, c'est un clown, c'est un acteur, c'est un sportman. C'est peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, et je dirais qu'il pourrait l'être du XXIe siècle. Je ne peux pas arrêter avec Godard, c'est comme une sorte de drogue très intelligente, très 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 intelligente, qu'il ne faut jamais arrêter de prendre. Et j'aime beaucoup sa voix, et j'aime beaucoup le voir, lui, dans ses films, ou bien en tant qu'acteur, j'aime beaucoup ce qu'il fait de sa propre personne, de sa propre image dans ses films, et j'aime beaucoup l'entendre J'aime beaucoup, beaucoup l'entendre. Et j'aimais beaucoup, et c'est peut-être la première chose que j'ai découvert en voyant ce film lorsque j'étais petit, je ne sais pas, à 13 ou 14 ans, lorsque j'ai vu À bout de souffle ou Alphaville. C'est le premier cinéaste qui m'a appris à lire au cinéma, parce que l'écriture est quelque chose de très important dans ces films, surtout dans les premiers. Non, on voyait toujours dans ces films des mains qui écrivaient des petites fiches ou des petits textes. Je crois que c'était la main toujours de Godard avec sa calligraphie. J'ai toujours aimé, beaucoup aimé son écriture. Donc c'est quelqu'un qui m'a appris que voir des films, c'était aussi les lire. Donc pour moi, qui était à la fois un passionné du cinéma et un passionné de la littérature, c'était un peu un banquet. Je crois que c'est un génie. Je ne sais pas si le mot génie a encore un sens, et pour moi, il l'a. Je crois que Godard, c'est un des très rares génies qui ont une vigueur incroyable, non, aujourd'hui. Je défends Godard contre tout le monde. C'est quelqu'un qui est très attaqué toujours, et c'est très facile de l'attaquer. Je crois que c'est vraiment un génie. Et qu'il est un génie, n'importe quoi qu'il fasse. Je veux dire, lorsqu'il dit, à propos de la crise grecque, comment Occident ose exiger aux Grecs qu'ils payent leurs dettes, puisque c'est l'Occident qui est toujours endetté des Grecs et qui devrait payer des droits d'auteur à la Grèce pour toujours, parce que ce sont les Grecs qui ont inventé l'Occident, je veux dire la raison, le logos et tout ça. Lorsqu'il dit ça, je crois qu'il est aussi génial que lorsqu'il fait un film comme Film Socialisme ou
L'adieu au langage.
Oui. J'écris toujours sur ces films. Lorsqu'il y a un Godard qui sort à l'affiche à Buenos Aires, il y a toujours le journal pour lequel je travaille, qui me téléphone et me dit « Il y a un Godard, c'est pour toi ». Donc je suis un peu le destinataire de Godard à Buenos Aires. Donc j'ai quelque chose avec lui, avec tout ce qu'il fait, qui est incroyable, c'est que je ressens exactement le même enthousiasme avant d'entrer en salle pour voir le dernier Godard que l'enthousiasme que je ressentais, je ne sais pas, lorsque j'avais 20 ans. Non, il y a quelque chose, il y a une jeunesse chez Godard qui est incroyable, absolument incroyable.
Ben merci beaucoup Alain Pauls. Je rappelle que tous vos livres, donc la trilogie Histoire des larmes, Histoire de l'argent, Histoire des cheveux, La vie pieds nus, qui est absolument magnifique aussi, Wasabi, Le facteur Borges, tous vos livres sont publiés aux éditions Christian Bourgois. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.